Le scénario du pire.
Dès le moment où il faisait noir, on n'osait plus sortir dans la rue. C'était vraiment une ville. Vous avez peur sur la ville.
Ouais.
Eh bien, Mouron a vraiment vécu peur sur la ville.
Bonjour, je suis Julie.
Et je suis Philippe.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le 29e et dernier épisode du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques.
Et dans le scénario du pire, nous choisissons des histoires qui feraient des bons films. Et l'histoire du jour correspond au genre de l'autobiographie. Parce que oui, pour cet ultime épisode, nous avons choisi de parler d'une affaire très personnelle pour moi. C'est une histoire dont mon père est un des protagonistes.
C'est rassurant.
Alors, mon père n'est pas l'assassin, spoiler. Et ce sera aussi un épisode avec un format assez différent des autres parce qu'on a été à la rencontre d'interlocuteurs.
L'histoire du jour parle d'une ville qui a peur, de cette arrivée près de chez vous et de la plaidoirie du papa de Philippe.
Alors check.
Check one, two.
Ok, ça tourne. J'ai passé les 26 premières années de ma vie dans la ville de Moucron. Moucron, c'est une ville belge à la frontière française, à côté de la ville de Tourcoing, qui est peut-être un peu plus connue. Moucron, c'est une ville moyenne, c'est une ville ouvrière, assez agréable. C'est une ville ch'ti, hein, pour ceux qui connaissent les ch'tis.
Oui.
Mon quartier s'appelle le quartier du Nouveau Monde. C'est à l'origine un quartier plutôt agricole. Le Nouveau Monde, c'est le nom du café de quartier qui a fini par donner son nom à l'ensemble du quartier. Alors aujourd'hui, le Nouveau Monde, c'est un quartier de corons. Les corons, ce sont les maisons ouvrières vraiment typiques de cet endroit qui a été construite par des sociétés industrielles, généralement des sociétés textiles, pour y loger des ouvriers pas loin des usines. Il y avait plein d'usines à Moucron, elles ont toutes fermé.
Mon grand-père avait une usine de textile à Dottigny.
À Dottigny ?
Oui.
Ah bah oui.
Oui, mais mon père vient de Dottigny.
Les maisons du quartier du Nouveau Monde ont été construites par centaines entre 1928 et 1932 par la société de logement à bon marché. Donc c'est un quartier qui sent le socialisme. Les rues s'appellent rue de la Prévoyance, rue de l'Union, rue du Progrès. Et alors toutes ces rues convergent vers une place qui s'appelle la place de la Fraternité. Il y a aussi des maisons qu'on appelle les maisons vieux ménages à Moucron, dont je me souviens très bien. C'est des toutes petites maisons qui sont réservés donc, dans ces quartiers-là aux personnes âgées, soit seules, soit des personnes âgées en couple. Ce sont des petits quartiers sans enfants.
C'est mignon comme nom.
Le vieux ménage ?
Oui,
ouais, c'est mignon. Ouais. Alors à Moucron, on dit que les gens sont simples, mais simples dans le bon sens du terme. Ce sont des gens qui sont sans chichi. Et à Moucron, le sans chichi, on dit des gens qui font pas de menoule. Alors quant à moi, donc, à l'époque, j'habite rue Roger Salengros. Roger Salengros, c'est un ministre du Front populaire français qui a été poussé au suicide en 1936. Ça aurait presque pu faire un épisode, parce que l'histoire est pas mal, l'histoire de Roger Salengros. La maison de mes parents n'est pas un coron, c'est plutôt une grande maison bourgeoise. Mes parents, c'est Jean-Albert et Régine, et ils sont avocats tous les deux. Pendant les 18 premières années de ma vie, j'ai entendu parler quasiment au quotidien de dossiers, de procédures, de procès. Voilà, c'était normal à la maison. Le soir, mes parents parlaient de leur cabinet d'avocat, dans lequel ils étaient en plus associés. Malgré tout, je n'ai vu plaider mon père qu'une seule fois. C'était en novembre 1993, aux assises du Hainaut. Donc le Hainaut, c'est une province belge. Dans le box des accusés, il y a un tueur que la presse a surnommé le tueur fou de Moucron. Et c'est donc cette histoire très personnelle que nous allons vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui revient régulièrement à la une d'émissions de True Crime en Belgique et même en France. Et d'ailleurs, en 2017, il y a la chaîne NRJ12, une chaîne privée française, et l'émission Crime, qui est une émission qui passe sur NRJ12, qui ont interviewé mon père pour un reportage qui était intitulé « Crime à la frontière belge » et qui revenait notamment sur l'affaire qu'on va raconter aujourd'hui. Mon père est un témoin privilégié de l'affaire parce que, on le verra tout à l'heure, il a été un des avocats dans le procès du tueur fou de Moucron. La journaliste qui interviewe mon père l'interview pendant environ une heure. Lui est très fier d'être interviewé par une télévision française. Et puis quand le documentaire est diffusé, il est assez déçu de constater qu'il n'y a que quelques secondes de son intervention qui ont été conservées. Après, c'est très standard dans la télévision. On voit un montage très dynamique, des punchlines. Ce sont des extraits qui sont très courts. Et puis bon, il faut faire avancer le récit à la voix off. Bref, il était un petit peu déçu. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai contacté NRJ12 et que la productrice de l'émission, donc l'émission Crime, a eu la très grande gentillesse de me faire parvenir l'intégralité de l'entretien de mon père, et donc grâce à Énergie 12 et à cette dame que je salue, on entendra la voix de mon père dans cet épisode, mon père qui est aujourd'hui décédé.
L'histoire commence le mercredi 12 août 1992. Il fait beau à Moucron, c'est un bel été. Les soirées sont douces et les terrasses sont pleines. Karine Mourman est une jeune femme de 25 ans qui n'habite pas Moucron depuis longtemps. Elle s'y est installée il y a quelques semaines. Et ce soir-là, elle boit un verre avec des amis et décide de rentrer se coucher vers 23h30. Elle marche seule dans la rue du Levant, une rue calme et un peu sombre du centre-ville. C'est sur le chemin vers chez elle. Elle sent qu'elle n'est pas seule dans la rue. Elle entend des pas derrière elle, mais elle ne s'en inquiète pas trop. Karine ressent soudainement une violente douleur dans son dos. Elle chancelle et tombe. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle parvient à se relever et retourne au bar qu'elle vient de quitter. Le patron la fait asseoir et constate qu'elle perd pas mal de sang. Karine a reçu une balle dans le dos. Son foie est atteint. Elle est amenée à l'hôpital et des chirurgiens interviennent immédiatement. Elle survit à cette attaque mystérieuse, mais n'a aucune idée de qui l'a agressée. Elle n'a pas vu le visage de la personne qui lui a tiré dessus et a priori, elle n'a pas d'ennemi connu. Le seul indice dont dispose la police est la balle qui avait traversé le corps de Karine. L'analyse balistique montre que la cartouche est une cartouche de fabrication artisanale. Et ce n'est pas une munition qu'on trouve dans le commerce. À ce moment-là, la police croit à une attaque ciblée qui visait spécifiquement Karine. L'enquête s'oriente vers sa vie d'avant, mais on ne trouve rien qui pourrait justifier cette tentative d'exécution. Mais 12 jours plus tard, le 24 août 1992, le jeune David Maton, 16 ans, rentre chez lui aux petites heures du matin. Il a travaillé toute la soirée et le début de la nuit à faire la plonge dans un établissement du centre-ville. C'est son premier boulot.
Et donc là, on va diffuser le récit de la mort de David Maton que mon père a fait pour Énergie 12.
Il travaille au relais de la poste. Il quitte donc l'établissement. C'était son dernier jour de travail. Il rejoint son domicile, qui est le domicile de ses parents. Il avait décidé avec ses parents qu'il partirait pour la première fois seul en vacances. Donc tout était prêt pour partir le lendemain matin. Il rentre chez lui à pied. Il est abattu froidement dans la nuque. Je crois qu'il ne s'est rendu compte de rien. Le père, inquiet, a fait le tour de la ville et en tout cas du trajet que devait accomplir le fils. La maman a été contactée par la police. Elle apprend là qu'il est décédé.
Revenons à l'enquête. L'analyse balistique est formelle. C'est un projectile artisanal qui a tué David Maton. Il est identique à celui utilisé 12 jours plus tôt. On a donc peut-être, à Moucron, un tueur qui tue au hasard. L'inquiétude s'installe dans la ville et les habitants évitent de sortir seuls.
Et je ne pense pas que beaucoup de personnes sortent seules et pour le plaisir de sortir. Et finalement, le seul qui a dû continuer à sortir, qui continue à sortir, c'est le père de la victime, donc du jeune homme qui est abattu. Pourquoi ? Parce qu'il était distributeur de journaux. Il y a un journal qui était distribué à 4 heures du matin, et il a continué à devoir se lever et à continuer à distribuer les journaux seul dans la rue. Ça m'a frappé énormément à l'époque. Je me suis dit, c'est quelque chose d'abominable. D'aller d'une rue à l'autre en se demandant ce qui s'est passé.
Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de.
Le 9 septembre, vers 21h, un moucronois nommé Éric Delhem sort d'un garage dans lequel il vient de parquer sa voiture. Il tombe nez à nez avec un jeune homme armé qui lui demande son portefeuille. Il refuse et le jeune homme lève son arme et tire. Éric place ses mains devant son visage dans un réflexe de protection. Il s'enfuit. Miraculeusement, la balle a été détournée par la manche de sa veste. Il a eu de la chance.
C'est incroyable comme il a eu de la chance.
Ben oui.
T'imagines, avoir une balle dans la manche qui ne rentre pas dans ton corps. Donc, s'il ne s'était pas protégé le visage, peut-être qu'il aurait été touché, en fait.
C'est une manche en quoi ?
En tissu. Enfin, c'est vrai, c'était une veste d'été. Tu vois,
tricot.
Oui, mais c'était une veste d'été parce qu'il faisait beau ce jour-là. Donc, c'est...
Ouais.
On est dans un bel été, ça doit être une manche. Ouais, un tissu relativement léger.
Ouais, c'est fou.
Il a même cru en fait que c'était un pistolet d'alarme quand il s'est enfui. Donc Monsieur Delhem là, qui s'est fait agresser, comme il n'a pas senti de balle, il a cru que c'était un pistolet d'alarme. Et c'est seulement quand il a vu qu'il y avait un trou dans sa manche qu'il s'est rendu compte que en fait c'était une vraie balle qui avait été tirée. Et c'est à ce moment-là qu'il a été porté plainte. Mais comme la douille avait été ramassée, le lien n'a pas pu être fait non plus. Ça s'arrête pas là, l'histoire. À Moucron, il y a un bar qui s'appelle l'Optimiste. Alors, l'Optimiste à Moucron, c'est une institution. C'est un club privé de nuit depuis 1967. C'est vraiment un truc plutôt où les gens vont boire des verres. C'est pas un truc glauque. L'endroit a la réputation d'être plutôt un café un peu arty et ouvert à tous. Il attire notamment une clientèle homosexuelle, mais pas uniquement. L'Optimiste se trouve dans un endroit à Moucron qui s'appelle le Bois Fichot. C'est un quartier assez bucolique et plutôt haut de gamme. C'est là où tu vas voir les belles villas. À Moucron, c'est dans ce quartier-là, le quartier du Bois Fichot. C'est là où j'allais faire mon jogging avec mon père quand j'étais petit. On faisait le tour du Bois Fichot. Donc on passait devant ce bar de l'Optimiste. Et le patron, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph von Karlberg. Et c'est une petite célébrité à Moucron parce que ouais, c'est le bar de nuit dans lequel les gens se rendent un peu en after, comme ça. C'est quelqu'un qui est passé plusieurs fois à la télévision et qui déclarait « Je suis un optimiste, tot in de kist ». Moucron mélange parfois le français et le néerlandais. Et je pensais à un monsieur d'origine flamande, et donc ça veut dire « Je suis un optimiste jusque dans le cercueil ».
J'avais jamais entendu ce mot.
J'aime bien.
Cette expression, en tout cas. Oui, c'est super.
C'est mignon. Le vendredi 11 septembre 1992, le tueur attend près de l'Optimiste. Son projet est d'abattre le premier client qui sortirait. Vu la réputation de l'endroit, peut-être avec un fond d'homophobie aussi dans son intention. Mais voilà, les gens s'amusent bien, donc personne ne sort de l'Optimiste. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, mais personne ne sort, et donc le tueur s'impatiente. Et à quelques dizaines de mètres de l'Optimiste, il y a une villa de plein pied. C'est la villa des Van Brakel. Les Van Brakel, c'est une famille nombreuse, dont les parents sont des amis de mes parents. Et c'était une soirée particulière pour les Van Brakel ce soir-là, parce que c'était la dernière soirée avant le mariage d'une des filles Van Brakel. Il y avait un dîner avec pas mal de monde. Une partie de la famille était partie faire les derniers préparatifs pour le mariage de la grande sœur, donc le lendemain. Et reste à la maison Thérèse Paulet, la mère de famille, et sa fille Nathalie, qui à ce moment-là a 19 ans. Le tueur rentre par la chambre d'un des fils. Un des fils d'ailleurs avec qui j'ai parlé il y a quelques semaines en préparant ça, qui m'a re-raconté l'histoire. L'intrus porte un bas qui déforme son visage. Il arrive dans la cuisine, où Thérèse Paulet fait un peu de rangement. Nathalie dans sa chambre, je pense qu'elle s'est déjà couchée, en fait, peut-être qu'elle dort. Et Thérèse se retrouve nez à nez avec l'intrus. Et elle pense que c'est une blague. Elle va lui lancer une petite phrase pour dire, oui, c'est ça, en disant, arrête tes conneries, un truc comme ça. Et donc l'intrus va lever son arme et braquer Madame Thérèse Paulet, et il va tout de suite tirer sur elle. C'est dans une cuisine, c'est pas grand, et il va la rater.
Mais il n'avait pas l'air très, très habile de... Enfin...
Alors c'est surtout l'arme qui est très vieille, et les balles qui sont artisanales, ça fait que la précision est pas incroyable. Et l'arme va s'enrayer à ce moment-là. Donc il va vouloir tirer une seconde fois. Finalement, la première balle, elle a touché le micro-ondes dans la cuisine. Il essaye de tirer une seconde fois et là, l'arme s'enraye complètement. Et alors Thérèse se met à courir. Nathalie a entendu le coup de feu, elle s'est levée, elle est sortie de sa chambre. Et donc la mère et la fille vont se réfugier dans la seule pièce de la maison qui ferme à clé. Et c'est la chambre des parents. Dans la chambre des parents, il y a aussi un des téléphones fixes de la maison. La mère et la fille sont donc dans la chambre de Thérèse. Le tueur les a suivis, mais il trouve la porte close. C'est une porte assez solide. Il essaye de la défoncer, mais il n'y arrive pas. Pendant qu'il essaye de défoncer la porte, la mère appelle la police. Et pendant ce coup de fil, la fille, donc Nathalie, essaye de s'enfuir par la fenêtre. Et à ce moment-là, l'agresseur va tirer à travers la porte. Et malheureusement, Nathalie est dans l'angle de ses balles. Et donc, elle va être touchée dans le dos, au niveau des reins et de sa colonne vertébrale.
Ouais, c'est chaud.
Ouais, c'est horrible. Et donc Nathalie, c'était une connaissance de ma sœur, elle était dans la même école, elle avait le même âge. C'était une agression qui était quand même très proche de nous. Nathalie s'effondre, mais heureusement, la police, enfin, il y avait une patrouille qui passait pas loin au moment de l'appel de la maman, donc la police était sur les lieux tout de suite. Ils sont arrivés avec la sirène hurlante, et ça a fait fuir le tueur. Un policier rentre chez les Van Brakel. Thérèse Paulet essaye de décrire l'agresseur, mais peut-être avec le stress, sa description est assez vague. Elle parle d'un jeune homme aux cheveux clairs, mais elle n'est pas formelle sur la couleur des cheveux.
Oui, ça va vite, et puis il avait aussi un espèce de truc sur la tête.
Oui, il avait le bas sur la tête, ouais. Ça peut peut-être éclaircir effectivement les cheveux.
J'imagine un bas couleur chair.
Oui, oui, oui. Donc, ouais. c'est l'époque.
C'est ça. Plusieurs patrouilles de police se mettent en chasse d'un individu. Une patrouille tombe sur un jeune homme aux cheveux noirs qui traîne dans un endroit isolé, près d'une ferme à l'abandon, à 1h du matin. Un des patrouilleurs demande au jeune homme de présenter une pièce d'identité. Le jeune homme met sa main à la poche et sort un revolver. Le policier sort à son tour son arme. Les deux hommes se braquent mutuellement. Lors de ce moment de grande tension, le jeune homme dirige son arme sur sa propre tempe. Le policier tente de convaincre celui-ci de lâcher son arme et de se rendre, mais l'individu s'enfuit en courant dans la nuit. Les policiers perdent immédiatement sa trace. Et un portrait robot très approximatif sera réalisé suite à cette rencontre. Le lendemain, les frères Van Brakel accueillent les invités au mariage de leur sœur pour leur annoncer que celui-ci n'aura pas lieu compte tenu du drame qui vient de frapper la famille. Nathalie a fort heureusement survécu à l'attaque, mais ses blessures sont graves.
Ah, il y a un truc particulier dans la maison des Van Brakel cette année-là.
Eh oui, la maison des Van Brakel est un des lieux de tournage du film « C'est arrivé près de chez vous ». Donc c'est un film phénomène en Belgique en 1992 et qui devient tout de suite un film culte.
Ouais, tu l'as vu, hein?
Ah oui, oui. Ouais, oui. C'est ce qu'on appelle un mockumentary, donc un faux documentaire. Et on y suit une équipe de tournage qui suit Ben, un tueur en série particulièrement prolifique. C'est un film en noir et blanc et avec un tout petit budget. 33 millions d'euros.
33 millions.
C'est un tout petit budget. 33 000 euros. L'acteur principal est Benoît Poulvorne, qui apparaît pour la première fois à l'écran. Qui était étudiant en art en plus,
oui,
à ce moment-là.
Il avait fait un court-métrage avant. Oui, je pensais ça. Ouais.
Et le personnage de Ben, le tueur en série, développe une relation amicale avec l'équipe du tournage et partage avec celle-ci son quotidien et sa philosophie de vie entre ses meurtres sauvages et crapuleux. Donc c'est de l'humour bien noir.
Oui, c'est très très noir et c'est de moins en moins drôle en fait au fur et à mesure que le film avance.
Oui, oui, c'est, ouais. On n'ose pas rire des fois. Ça commence plutôt comme une comédie noire, mais le film glisse progressivement vers des scènes dérangeantes. Un meurtre d'enfant et un viol collectif.
Enfin, bon. Oui, c'est très dérangeant.
C'est très dérangeant. Et la scène du meurtre d'enfant et de ses parents a été tournée à Moucron, au Bois Fichaud, chez les Van Brakel. La scène est très violente. Ben sonne à la porte de la villa du Bois Fichaud, qui n'est pas identifiable dans le film. Une femme ouvre la porte et se prend un violent coup au visage. Elle est prise de convulsions. Ben se rend dans la salle de bain. Le père, qui est interprété par un des fils Van Brakel.
Pierre Van Brakel, ouais.
Que tu connais.
Oui, que je connais.
Se fait fracasser la tête contre le lavabo. Ben demande à l'ingénieur du son de placer son micro du côté de la nuque de sa victime et éclate de rire en évoquant le vieux fusil.
André, Rémi, ça ne me rappelle rien, ça ? Le vieux fusil ! Flipperait ! Bon film, ça.
Ensuite, Ben, aidé par l'équipe du film, poursuit un enfant qui essaye de fuir dans les bois. Ben et l'équipe du film rattrapent l'enfant et le tuent à son tour. Voilà, c'est un peu...
On va passer un petit extrait audio, d'ailleurs, de cette scène.
Gamin ! Allez, viens ! C'est pourri, gamin !
Rémi, tu peux pas m'aider, tiens-lui les jambes et les bras. Le sale gamin.
Hé, mon vieux gueule !
Voilà.
Tu es heureux d'enfant, Ben.
Non. Non, 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 non. Comme tu peux remarquer, je ne suis pas vraiment habitué de ce côté-là. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième enfant en 5 ans.
C'est ça.
La première fois que j'ai vu ce film, j'étais assez jeune. Mm-hmm. Et que, enfin, je pense que Poulvorde était déjà connu. Il avait fait genre des films un peu plus drôles. Mm-hmm. Et donc, on me parlait comme un film super drôle. Et oui. En fait, quand tu commences à regarder ça en disant c'est un film drôle, mais j'étais là, mais non, mais c'est atroce en fait par moment. C'était. Enfin, il y a un truc drôle, mais c'est. Enfin voilà, c'est une comédie noire.
Oui, c'est ça. C'est un film à voir quand même.
Mais oui, oui, à fond.
Moi, à l'époque, je croise régulièrement certaines personnes de la famille Van Brakel, hein, dont Pierre Van Brakel. Et donc, je sais que la scène de « C'est arrivé près de chez vous » a été tournée chez eux. J'en parle à mon père en parle à la police. À mon avis, je n'ai pas été le seul à faire ce rapprochement, mais en tout cas, du coup, ça place la police sur la piste du film. Bah, peut-être que, finalement, le tueur, c'est une sorte de copycat de Ben dans « C'est arrivé près de chez vous ». À partir de là, il y a une enquête parallèle. Les salles de cinéma où on projette le film sont mises sous surveillance, au cas où il y aurait quelqu'un qui reviendrait régulièrement voir le film. Je pense que le film est même encore en salle à Moucron, ou au moins à Tournai, donc juste à côté, pendant l'été 1992. Mais c'est une piste qui est une fausse piste, et qui ne donnera bien sûr rien. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, la maison des Van Brakel n'est pas identifiable dans le film, donc les scènes d'intérieur sont tournées chez eux. la scène où on va chercher l'enfant aussi, mais je pense que la porte d'entrée n'est pas forcément la leur. Je ne suis pas certain que le peu d'extérieur qu'on voit, ce soit vraiment la maison des Van Brakel. Alors, par rapport à l'agression des Van Brakel, il y a une analyse balistique et qui va révéler que la balle qui a touché Nathalie est similaire à celle qui a blessé Karine Moorman et à celle qui a tué David Maton. Dans la foulée, il y a un grand événement à Moucron qui s'appelle les 24 heures de Moucron, dont un des initiateurs est Pierre Van Brakel, un des membres fondateurs de cette fête, ma fête préférée quand j'habitais Moucron. Et bien, la fête est annulée.
L'élément qui permet à l'enquête d'aboutir est une lettre envoyée le 16 septembre par le tueur à la police. C'est assez fréquent chez les tueurs psychopathes d'envoyer des courriers aux autorités pour les défier et pour entretenir leur légende. On l'avait déjà vu aussi dans certains épisodes,
oui.
Avec le caméléon là.
Oui, le caméléon, ouais. Qui expliquait qu'elle ne serait jamais attrapée. Il y avait aussi Jack l'Éventreur, hein, qui écrivait des lettres qui sont restées célèbres. Et puis il y a un autre tueur en série très connu qui s'appelle BTK, qui est le tueur qu'on voit dans Mindhunter, qui est celui qu'on voit dans chaque épisode un petit peu. Et puis, il y avait David Berkowitz, le fils de Sam, un son of Sam. Et alors, si tu prends Jack l'Éventreur, BTK, hein, BTK, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Bind, Torture and Kill, attache, torture et tue. Et David Berkowitz, le fils de Sam, son of Sam, ce sont trois tueurs qui ont choisi leur pseudonyme. En tout cas, j'ai l'impression que les tueurs qui choisissent leur pseudonyme, ils aiment bien écrire à la police pour installer leur personnage. Et bien, le tueur de Moucron aussi, il se choisit un pseudonyme. Alors, il n'est pas hyper créatif. Mais il signe son courrier par le pseudo de Fantomas. Je n'ai pas repris la lettre dans le dossier, donc mes parents n'ont pas conservé le dossier. Je n'ai pas tenté de remettre la main sur la lettre parce que je pense que son contenu n'a pas grand intérêt, mais en tout cas, il annonce dans cette lettre l'intention de continuer à agresser des gens en espérant en tuer le plus possible. Et pour prouver qu'il est le vrai tueur, il joint à son courrier une balle. Et on sait, hein, que ce sont des balles artisanales et qui sont très identifiables. Et donc, il n'y a aucun doute que le courrier a bien été écrit par le tueur de Moucron.
Mais le tueur a poussé la bravade trop loin. Grâce à l'aide des services postaux, on sait que le quartier où la lettre a été postée, c'est le quartier du Nouveau Monde.
Donc, mon quartier.
Oula. Le postier qui travaille dans ce secteur est interrogé et presque miraculeusement, il reconnaît l'enveloppe et se souvient dans quelle boîte postale il l'a collectée. Ça, c'est dingue.
C'est dingue.
Oui. Ouais. Un policier en civil est mandaté pour parcourir le quartier. Il remarque un jeune homme à l'allure particulière. C'est en tout cas l'impression du policier. Et donc, le policier va le suivre discrètement jusqu'à son domicile, qui se trouve rue de Nieuport, donc à Moucron. Il reconnaît la maison. Le jeune homme qui y vit avec ses parents est, comme on dit, connu des services de police. Il s'appelle Arnaud de Gezel et n'a que 17 ans. C'est un jeune garçon qui a un profil inquiétant. On sait qu'il faisait des blagues sadiques à ses camarades. Et notamment, il a versé de l'acide tartrique.
Oui, c'est ce que j'ai vu, de l'acide tartrique. Ouais, c'est un truc qu'il aurait volé dans la classe. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne pense pas que l'acide tartrique soit si dangereux que ça, mais je pense que l'intention n'était pas très sympathique, en tout cas.
Non, ce n'était pas cool. En tout cas, donc, il versait de l'acide dans les boissons des autres élèves. Et Arnaud est sous la tutelle d'un juge de la jeunesse et n'est plus scolarisé. Il est fils unique et a une relation très conflictuelle avec ses parents, qui ne savent plus quoi faire.
Alors, la rue de Nieuport, où habite Arnaud de Gezel, en fait, c'est la perpendiculaire à ma rue. C'est vraiment, vraiment tout près de chez moi.
Et toi, t'avais quel âge à l'époque, d'ailleurs ?
Alors, moi, j'avais 22 ans.
22 ans, ok.
Les enquêteurs se rendent à la maison. Arnaud de Gezel est sur place avec sa mère. Lui, il est dans sa chambre, la maman est en bas. La maman va les amener en haut. Ils vont fouiller la chambre et la fouille met tout de suite fin au dernier doute. C'est clair que Arnaud de Gezel est le tueur fou de Moucron. Il y a plein d'indices. En fait, il y a tout l'attirail. Il y a les outils nécessaires pour la fabrication des balles. Arnaud de Gezel est arrêté. Et bon, d'abord, il va nier mollement, mais très vite, il va avouer. Et ses aveux vont concorder parfaitement avec les éléments matériels.
S'il avoue tout de suite, c'est qu'il avait quand même envie que ça se sache, non ?
Je pense qu'il s'en fout.
Ouais, nonchalance ouais. Totale, quoi.
Et donc, on a arrêté le tueur de Moucron. Il n'a plus son arme, en fait. Tu sais, le jour où il s'est fait braquer par les policiers, où il a mis l'arme sur sa propre tempe, en fait, il a jeté son arme près de la ferme, donc il n'avait plus son arme au moment de l'arrestation. Et la vie peut reprendre à Moucron. Je me souviens, c'était un énorme soulagement dans la ville, et on sait que le tueur fou ne frapperait plus.
Tu te souviens de ce moment où t'avais peur de te faire tirer dessus
Ouais, donc chez mes parents, donc je vivais plus chez mes parents à l'époque, mais j'y étais quand même souvent, notamment le week-end. Et la pièce où on regarde la télévision chez mes parents, elle est côté rue. Et normalement, on fermait jamais les volets pour regarder la télé. Et tout cet été-là, dès qu'on était dans une pièce côté rue, on fermait les volets. Et ma mère, qui ne fermait jamais la porte de la cuisine à clé, fermait la porte de la cuisine à clé tous les jours. Donc oui, il y avait vraiment, on vivait vraiment avec l'inquiétude. Vraiment une forme de psychose de ce tueur.
Et il n'y avait plus de gens en terrasse ou genre, même dans les magasins et tout ça?
Non, c'était surtout quand le soir tombait, parce que le tueur attaquait toujours la nuit. Donc la journée, c'était relativement normal, même si les conversations, c'était beaucoup autour du tueur. Mais le soir, il n'y avait plus personne. Et par exemple, même mon père me disait, quand il y avait un client qui avait un rendez-vous vers 18h30, 19h, soit il venait accompagné, soit il venait pas. À cause de l'âge de l'accusé, la question de la cour d'assises se pose. Mais très vite, on établit quand même que les faits sont trop graves pour que Arnaud de Gueuzel soit considéré comme un mineur. Donc on va le considérer pénalement comme un majeur. Ça veut dire qu'il y aura un procès d'assises devant jury. Et la famille du jeune David Maton demande à mon père de les représenter dans ce procès. Alors il y a d'abord, donc dans un procès d'assises en Belgique, il y a d'abord la chambre du conseil, donc, où on va discuter de la détention préventive. On va décider de maintenir ou pas un détenu en détention préventive. Et donc là, dans l'entretien que mon père a eu avec Énergie 12, il parle de ce moment à la chambre du conseil. Alors il y a un défaut dans le son à ce moment-là, mais je trouve que l'extrait est intéressant, il n'est pas très long. Donc on va le diffuser quand même.
Et le moment d'émotion le plus important, c'est le passage en chambre du conseil, quand les parents, mes clients, étaient présents, et que le président de la chambre du conseil, qui est un homme de qualité, bien entendu, voulait un ou deux policiers à côté de mes clients pour empêcher qu'ils fassent un geste déplacé pour une salle d'audience, même si on peut le comprendre. J'ai refusé. J'ai dit, je prends en charge cette responsabilité, et j'ai dû tenir le père par les épaules pendant toute l'audience. Attention, la chambre du conseil, c'est à huis clos, hein, donc il n'y a pas de public. Il y a le président de la chambre du conseil, il y a le procureur du roi, il y a tous les avocats, il y a les victimes et à la rigueur les parties civiles. Le père voulait absolument être présent, j'avais tenté de le dissuader, mais il a eu une attitude très digne de bout en bout.
Arnaud de Gueuzel est renvoyé en cour d'assises. Et j'ai reparlé du procès d'assises avec ma maman. Et donc je vous propose d'écouter quelques minutes d'entretien que j'ai eu avec ma maman. Maman, on va parler un peu de l'affaire de Arnaud de Gueuzel, du tueur de Moucron. Est-ce qu'on a encore un dossier à la maison ?
Hélas non. Ton papa n'a pas voulu garder les archives de ce qui est d'assises. Il y en avait plusieurs que j'aurais moi aimé garder, mais lors du dernier tri, il a préféré éliminer le tout.
D'accord. Et donc, papa était avocat de la partie civile?
De la partie civile, d'une des parties civiles, des parents de David Maton, c'est-à-dire la seule victime qui a été tuée par Arnaud de Gueuzel.
Et partie civile, ça veut dire quoi?
Alors, partie civile, dans un procès pénal, les victimes peuvent greffer leur action sur l'action publique. Et donc, la partie civile en Belgique ne peut pas plaider sur la peine, elle ne peut se constituer et demander la parole dans un procès comme un procès d'assises que si elle a des dommages à réclamer. Mais dans un cas comme celui-ci, si ma mémoire est bonne, les parents de David Maton n'ont réclamé qu'un euro de dommage moral, mais cette demande était indispensable pour pouvoir prendre la parole dans le procès devant la cour d'assises.
Et est-ce que ça permet d'accéder aussi à certains éléments du dossier ?
Ça permet d'accéder à tous les éléments du dossier.
D'accord. Et donc, faute de dossier, tu as par contre collecté pas mal d'articles ?
Oui, moi j'ai gardé tous les articles de presse qui ont paru, surtout après les plaidoiries de la partie civile. Et donc, elles sont très, très évocatrices du climat qui a régné dans ce procès. On y voit ce jeune homme dans le box des accusés, un beau garçon avec un physique de jeune voyou, je trouve. Mmh. Et ça s'est confirmé lors des débats, parce que j'ai quand même assisté aux plaidoiries des parties civiles et de la défense. Et on voyait effectivement un jeune extrêmement froid, extrêmement cynique. Vraiment une des premières fois où on avait l'impression d'être en présence d'un jeune habité par le mal. Enfin, c'était un personnage extrêmement pervers. D'ailleurs, il y a un titre ici, je ne sais plus de quel journal, qui parle de la morgue du jeune démon. Enfin, tous les journalistes présents ont eu la même impression de quelqu'un d'un peu démoniaque, qui ne tuait pas pour un profit, qui tuait pour le plaisir de tuer. Et c'est ça qui était absolument glaçant dans cette personnalité.
C'est ton souvenir principal de cette affaire?
Alors aussi, l'émotion de nos clients. Moi, je n'ai pas préparé directement le procès d'assises, mais je l'ai vécu un peu par l'intermédiaire de papa. Et j'ai assisté aux plaidoiries. Il y a eu un moment, mais d'émotion intense, quand papa a commencé à plaider en évoquant ce jeune homme qui était jeune, courageux, qui rentrait d'une activité lucrative d'étudiant, enfin d'un petit job d'étudiant, et qui s'est fait descendre d'une balle dans la nuque par Arnaud de Gezel, qui, à l'audience, a bien précisé que c'était parce qu'il savait que c'était un centre vital qu'il avait tiré dans la nuque de David Maton. Enfin, donc c'était effrayant pour les parents qui étaient aussi présents. Et quand papa a évoqué ce long moment où ils attendaient le retour de leur fils en s'inquiétant de ne pas le voir revenir, quand papa a évoqué la tombe sur laquelle il y avait déjà le nom de leur fils qui était gravé, mais aussi leurs deux noms, parce que ils avaient déjà voulu s'assurer que dans la mort, ils ne seraient pas séparés de leur fils. Enfin, il y avait quelque chose de très poignant dans ce moment de plaidoirie. Il faut savoir aussi que c'est une famille qui avait déjà perdu un enfant, puisque ils avaient perdu un bébé de 4 mois, donc David était le seul enfant.
Oui.
Qui leur restait.
Ouais, Vincent Maton.
Ouais. Qui était mort.
Et l'ambiance à la maison pendant le procès, est-ce que là tu as des souvenirs est-ce que papa était angoissé pour cette plaidoirie?
Non, pas particulièrement, parce que on est quand même, si je peux utiliser cette expression, du bon côté quand on plaide pour une partie civile. On était en plus dans une affaire où la culpabilité n'était pas contestée ni contestable d'ailleurs. C'était pas du tout l'angoisse, mais le souci de faire passer le message adéquat, de faire sentir à tous les jurés à cette douleur intense des parents, enfin ce côté absurde d'avoir un fils tué dans des circonstances inexplicable par un autre jeune qui aurait pu être un de ses amis, puisqu'ils avaient le même âge, enfin, donc... Mais c'était vraiment le bon tué par le méchant. Et un sentiment d'injustice, mais terrible, qui avait saisi tout le monde.
Est-ce que tu sais si papa avait un texte de sa plaidoirie?
Je ne pense pas. En général... il y avait des notes, il y avait des éléments qui étaient repris, mais non, il n'a jamais, je pense, écrit en entier une plaidoirie. Enfin, ça, j'en suis même certaine.
Est-ce que tu étais fière de ton mari?
Ah oui, absolument. Ouais. Parce que il avait cette capacité de faire passer les émotions et il avait un sens de l'écoute absolument remarquable. Donc, il retransmettait, c'était un interprète, il retransmettait parfaitement ce que ses clients ressentaient, et il l'a fait de manière remarquable. Je pense que c'est même noté dans un certain nombre d'articles dans la presse que cette plaidoirie était particulièrement belle, touchante et efficace.
Bah, merci maman.
Voilà.
Merci maman.
Ouais, c'est assez émouvant.
Oui, c'est chouette, hein.
Ouais.
Ouais.
Et de voir les mots qu'elle utilise, de démon, de machin.
Ouais.
De...
Ouais. En fait, on avait les articles sous les yeux. Et c'est vrai que tous les articles parlaient de son sourire, de son rictus, de son comportement pendant le procès. C'était vraiment un être assez effrayant jusqu'au bout.
Mais c'est bizarre parce que tu t'en trouves pas beaucoup sur le net. Tu vois
non,
pas.
Non, il n'y a pas beaucoup. Non,
on voit des extraits de 2 secondes de sa tête et
ouais,
c'est tout.
C'est vrai. c'est vrai.
Qui d'ailleurs, je trouve qu'il a quand même... quand tu le vois juste comme ça en vidéo, là, de 5 minutes où il arrive dans le box des accusés, oui. Où il a quand même une dégaine un peu de... Je sais pas, de star ténébreuse. Enfin, oui, c'était oui. Un beau gosse. Quoi.
Ah oui, tout à fait, c'est un beau gosse, vraiment.
Désinvolte, mais ténébreux, quoi.
Ouais, oui. Alors, j'ai assisté à ce procès, mais ça fait longtemps, donc mes souvenirs sont ce qu'ils sont. Mais grâce aux articles apportés par ma mère, j'ai pu reconstituer pas mal d'éléments du procès. Et les souvenirs sont un peu revenus au fur et à mesure. Alors, le jury, c'était un jury, ça je l'ai retrouvé dans la presse, c'était un jury composé de 9 hommes et 3 femmes. Et Arnaud de Gezel est jugé pour un assassinat et différentes tentatives d'assassinat. Karine Moorman, donc la première victime, elle est présente au procès. Et on sait qu'elle souffre encore énormément parce qu'il y a une partie de la balle qu'elle a reçue dans le foie qui n'a pas pu être extraite.
Oh.
Et donc, ouais, ça lui cause des douleurs quasiment permanentes et une invalidité qui l'a empêchée pendant longtemps de travailler. J'ai cru comprendre qu'elle avait pu reprendre une vie de travail normale, mais ça a été quand même très très difficile et elle garde des séquelles.
Oui, même les traumas.
Oui, 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 c'est clair. Nathalie Van Brakel ne souhaite pas témoigner au procès. Elle a des séquelles très graves, elle a dû réapprendre à marcher. Elle veut tourner la page, elle veut passer à autre chose. Éric Delhem, lui, il est présent, mais c'est le miraculé, donc lui n'a pas été blessé. David Maton n'est pas là, parce qu'il est mort. Ses parents sont côte à côte au procès, et ça, c'est vraiment une image dont je me souviens, et ils sont vraiment écrasés de chagrin. Tu sens quelque chose de l'ordre de ce chagrin autour d'eux, enfin, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais ça se sent.
Et en plus, c'est ta maman qui le dit, ils ont déjà perdu un enfant.
Ils ont déjà perdu un enfant,
ça fait
ouais.
Double chagrin.
Ouais. Donc on est en novembre 1993 et la salle de procès est vraiment pleine à craquer. Alors moi, je me souviens de l'entrée d'Arnaud de Gezel, hein, c'est ce que tu disais, il est beau, il est très nonchalant, mais enfin, c'est entre la nonchalance et l'arrogance, mais il y a quand même quelque chose de très déplaisant. Il est beau, mais il y a quelque chose de mort dans ses yeux.
Il y a un peu Nick Cave aussi.
Ouais. Oui, oui, c'est, tout à fait. Vraiment.
Ouais, ouais.
Vraiment. Ouais, même la coiffure. L'accusé répond aux questions du président du tribunal, mais il ne se soucie pas du tout de l'impact de ses réponses. Il n'essaye pas du tout de donner une bonne image de lui, une image positive. Et à un moment, le président lui demande s'il a quelque chose à dire aux victimes. Et puis, en fait, il regarde le président du tribunal, il hausse les épaules et dit « Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ?» C'est sa seule réponse.
Et en plus, il y a l'arrogance de l'ado, enfin, qui donne l'impression qu'il ne se rend même peut-être pas compte de ce qu'il a fait. Enfin, ça doit être bizarre aussi.
Oui, en tout cas, il n'exprime aucun remords, aucun regret, il ne donne aucune explication. C'est vraiment juste le plaisir de tuer. Il n'y a aucune autre motivation que la volonté de tuer, le plaisir de tuer.
Et ça, il l'a dit ? Enfin, genre, il le disait ou c'était très clair dans...
Il ne donne aucune explication. Vraiment, il répond au minimum, mais il voulait tuer, ça c'est sûr. Donc il voulait tuer le plus de gens possible, et ça il le dit. Les débats révèlent aussi qu'il est très intelligent, que c'est plutôt un jeune homme d'une intelligence supérieure, mais aussi qu'il est dangereux depuis l'enfance, hein, donc on a raconté l'histoire de l'acide. Il y a aussi un moment où on révèle qu'en primaire, il faisait des boulettes de papier qu'il mettait dans le cartable de ses copains, et dans les boulettes, il y avait des aiguilles. Et donc si les enfants saisissaient la boulette de papier, ben, ils se faisaient piquer la main.
Ouais, c'est violent quand même.
C'est très violent, et c'était très très jeune, quoi. C'était vraiment un enfant qui faisait ça. Donc il y a un côté un peu natural born killer, comme ça, très inquiétant. Au troisième jour des débats, Arnaud de Gezel, alors à mon avis sur les conseils de son avocat, enfin même pas à mon avis, je sais que c'est sur les conseils de son avocat, fait une déclaration. Et là il dit « Monsieur le Président, si au premier jour du procès, je vous ai répondu que je n'avais rien à dire à mes victimes, ni aux parents du garçon mort, c'est que j'étais impressionné. Puis, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. » Je veux leur donner l'assurance que plus jamais je ne recommencerai. Cette déclaration, en fait, les gens n'y croient pas trop, et de toute façon, c'est trop tard. Enfin, l'image est déjà formée. Ça ne suffit pas à l'humaniser.
Bah, en plus de ça, c'est quand même chaud de relâcher quelqu'un comme ça.
Enfin, oui, oui. Et puis, voilà, la façon dont il le dit, en plus, tu le dis sans aucune intonation, il y a quelque chose dans son visage, de nouveau, ce rictus en permanent. Et donc, c'est ce jour-là, le troisième jour des débats, qui s'est ouvert par cette déclaration d'Arnaud de Gezel, que les parties civiles ont pu faire entendre leur voix. Et grâce à la discussion avec ma mère, grâce aux articles qu'elle m'a ramenés, j'ai pu reconstituer les moments forts de la plaidoirie de mon père. Et donc pour moi, c'est un grand moment parce que je vais revenir sur cette plaidoirie. Dans les premiers instants de son intervention, mon père dit « Dans le cimetière, à 100 mètres de la frontière française, au fond à droite, une pierre frappée de cette inscription « David Maton, 1976-1992 » et la photo d'un gosse souriant, beau comme un soleil. » Ensuite, mon père détaille les heures vécues par les parents inquiet entre le moment où ils s'inquiètent de ne pas voir David rentrer à la maison et le moment funeste où ils apprennent que leur fils est décédé. Donc là, je cite. « Bernard file en auto vers la Grand Place. Il visite tous les cafés, en vain. À deux reprises, il passe tout près du corps du pauvre David, mais les sens uniques l'empêchent de le voir. Et Magda, pendant ce temps, téléphone vainement au commissariat et à la clinique. Et puis deux personnes se présentent, et c'est le doute, puis l'angoisse, l'incrédulité, le désespoir, le long cri d'une mère déchirée. Et Bernard, au courant de rien, lui téléphone. Elle lui dit de venir, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il a compris. À ce moment-là de la plaidoirie, mon père évoque le moment où le père apprend que son fils est décédé. Et Bernard Maton, qui est à quelques mètres de moi et tout près du prétoire, laisse échapper un cri, et ça, je l'oublierai jamais, où il hurle dans un sanglot, « C'est David que je veux ». Et ça, c'est un moment dingue dans un procès.
À l'audience, le père a eu un sursaut et un cri épouvantable qui a fait pleurer tout le monde, y compris le président. À l'audience, ça a été un des grands moments d'émotion.
Ça doit être hyper émouvant et une violence aussi.
Mon père a un moment de déstabilisation. À ce moment-là, je vois mon père rougir, mais il prend une respiration et il reprend. Ce que mes clients demandent, c'est de pouvoir croire que les enfants ont encore le droit de devenir adultes, de se promener par une nuit d'été, de chanter comme dans la flûte enchantée, que le jour va renaître et que la paix reviendra. Mon père ne veut pas qu'Arnaud de Gezel soit présenté comme une victime de la société, tu vois, comme si la société n'avait pas fait son travail. Et donc il s'adresse au tribunal en disant « Est-ce la faute de la société si personne n'a senti le plomb qui fondait dans la chambre d'Arnaud de Gezel ?»
C'est une sacrée punchline.
Ouais, hein.
C'est hyper émouvant. Comme.
Ouais, c'est une plaidoirie forte, hein, et c'est pas fini. Après, il va s'adresser à Arnaud de Gezel, il va le regarder. Ça aussi, ça c'est un moment dont je me souvenais très précisément. Et il lui dit « Vous êtes un alchimiste du mal. Lors de votre intelligence, vous l'avez transformé en vil plomb à tuer. Vous avez transformé votre cœur en un métal plus solide que vos alliages. » Et la fin de la plaidoirie est très très émouvante, très bouleversante, parce qu'il reprend en fait les mots du début. Dans le cimetière, à 100 mètres de la frontière française, une pierre frappée de l'inscription David Maton 1976-1992. Et en dessous, une place pour deux noms. Un jour, Magda et Bernard Maton rejoindront leur cher enfant, et même le plus pervers des tueurs ne l'arrachera pas à leur étreinte. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. 25 ans plus tard, mon père se remémore cette affaire au micro de la journaliste de crime. Et là, on va passer un petit extrait.
Qu'est-ce qui a été le plus frappant pour vous?
Le cri du père. Le cri du père pendant. C'était pendant ma plaidoirie. C'est l'affaire qui m'a marqué le plus sur le plan humain. Pour deux raisons. D'abord, pour la douleur des parents, dans cette espèce de destin cruel. Et deuxièmement, dans l'apathie quasi totale du prévenu.
Revenons au procès. Maître Édouard Vandal est le dernier avocat à s'exprimer pour les parties civiles.
Ah oui, moi je me souviens je faisais du vélo avec Vandal quand j'étais petit. Il venait chez mes parents à la mer du Nord, et puis c'était un homme très sympathique.
Il parle de la souffrance des Van Brakel et évoque le manque d'émotion et de regret du père d'Arnaud. Il parle de la maison des Van Brakel comme une maison de liberté où l'on vivait sans crainte ni système de sécurité, ni chien féroce. Il y a ensuite la réquisition du procureur du roi. Maître Luc van Osloos ne reconnaît aucune circonstance atténuante et réclame la perpétuité. Il revient sur le regret tardif de l'accusé et estime que ce sont des regrets de complaisance. Il le qualifie de pervers à l'état pur. Il ne faut même pas une heure au jury pour déclarer Arnaud de Gezel coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui.
Et dans un procès d'assises, c'est la défense qui a le dernier mot. Et la défense, on va dire que c'était une défense impossible, d'Arnaud de Gezel a été assurée par un père et son fils. Donc j'aime bien cette coïncidence. Le père, c'était Gérard Rivière, son fils Jean-Philippe Rivière. Et maître Jean-Philippe Rivière a eu la gentillesse de me recevoir pour un entretien où on a discuté de l'affaire et du procès. Et donc je vous propose de diffuser cet entretien avec Jean-Philippe Rivière, qui est un orateur particulièrement brillant. Maître Rivière, d'abord merci de me recevoir. Donc vous étiez l'avocat de Arnaud de Gezel, le tueur fou de Moucron, l'adversaire de mon papa dans ce procès-là, qui lui était l'avocat de la famille Maton. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle donc Jean-Philippe Rivière, je suis avocat au barreau de Tournai depuis 1989. Dès le moment où j'ai commencé la carrière d'avocat, je me suis destiné plus particulièrement au droit pénal et également au droit de la famille. Je me suis pas mal investi également dans la vie de l'ordre des avocats, dont j'ai d'ailleurs été le bâtonnier de 2016 à 2018. Et j'ai également donné cours, et je donne toujours cours, d'abord de droit pénal et à présent de déontologie à l'école du barreau.
D'accord. Vous devenez avocat, mais comment ça se passe en fait ? Qui vous contacte ? Mais
à l'époque, j'étais tout jeune avocat. Et c'est en fait mon père, qui était avocat également, qui a été contacté par la famille. Très rapidement, père m'a demandé, entre guillemets et très respectueusement, de l'assister, nonobstant mon jeune âge, parce qu'il y avait évidemment, sans doute, on pouvait imaginer une facilité de contact plus importante entre Arnaud de Gezel et moi qu'entre Arnaud de Gezel et mon père, qui, par définition, aurait pu être le sien.
Oui.
Donc, il y avait 6 ou 7 ans d'écart entre Arnaud de Gezel et moi. Donc, c'était, on le pensait, plus de nature à faciliter le contact.
Et ce contact, justement, il était comment ?
Alors là, je peux vous dire que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et j'ai 34 ans accomplis de barreau maintenant.
Ouais.
J'ai à ce moment-là, je viens de le dire, 4 à 5 ans de barreau. Je me consacre au droit pénal, ce qui veut dire concrètement que je suis à la prison 2 ou 3 fois par semaine pour y rencontrer à chaque visite un ou plusieurs détenus. Jamais, pendant ces 5 premières années, jamais, je ne me suis inquiété de savoir où se trouvait le bouton d'appel d'urgence pour appeler les gardiens dans l'hypothèse où un détenu viendrait à s'en prendre à son propre avocat. Je n'avais même jamais regardé où ça se trouvait. La première fois que je rencontre Arnaud de Gezel, nous sommes à moins de 10 minutes d'entretien et je cherche désespérément du regard dans le parloir des avocats où se trouve le bouton d'appel d'urgence. Il n'avait rien dit, il n'avait rien fait, il n'était pas menaçant. Mais son attitude, son regard, c'est quelqu'un, et je n'ai jamais rencontré ça depuis 34 ans, c'est quelqu'un qui dégageait du froid. Physiquement, on ressentait un frisson par sa seule présence et une angoisse par sa seule présence. Au point tel que pour la première fois en 5 ans, je me suis dit, s'il me saute dessus, je fais comment pour appeler les gardiens ?
Ouais.
J'avais jamais regardé ça avant et j'avais vu des dizaines ou des centaines de détenus. C'est quelque chose que je n'avais jamais rencontré avant et c'est quelque chose que je n'ai plus rencontré depuis.
D'accord.
Un personnage glaçant, même au sens physique, physiologique du terme.
Ouais.
Il était là, on avait froid. J'ai jamais vu ça.
Et est-ce que vous avez réussi à entrer en relation avec lui ?
Oui. Oui. Il était collaborant. Il était incontestablement collaborant. Il se complaisait même à raconter, je vais pas dire ses exploits, mais on se comprend, à exposer dans le détail le comportement qui a été le sien, non seulement au moment de la commission des différents faits, mais également dans le cadre de la préparation de ces faits. Et pire encore, lorsqu'il évoquait la déception, vous m'entendez bien, la déception qui avait été la sienne lorsque, après l'une ou l'autre agression, il apprenait le lendemain dans la presse que la victime avait survécu. Ah là, j'étais déçu, maître, parce que je me suis dit quand même que la munition que j'avais fabriquée n'avait pas une force de frappe suffisante. Et vous comprenez bien, maître, que je me suis immédiatement remis au travail pour avoir des munitions qui puissent être assurément létales.
Et donc, il n'y a aucune trace de remords ? Est-ce qu'il y a une trace de compréhension de ce qui se passe dans le chef d'une victime ou de la famille d'une victime ?
Ça oui, clairement, oui, ça oui. Mais attendez, on comprend que la victime souffre si elle est vivante, on comprend que son entourage souffre éminemment si la victime est décédée, ça oui. Et puis alors, une fois qu'on l'a compris, ça peut générer 2 attitudes. Soit le regret et le remords, soit une certaine jouissance.
Ouais.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir. La psychiatrie, à l'époque, n'était absolument pas aussi évoluée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, plus de 30 ans après. Hein. Si l'on compare avec un autre dossier qui va survenir dans les années qui suivent, c'était l'affaire Dutroux. Les psychiatres viennent témoigner en 2004 dans l'affaire Dutroux. Et je pense que le diagnostic des psychiatres, 10 ans ou 20 ans après, eût été tout autre.
Dans un procès comme celui-là, avec un accusé comme celui-là, c'est quoi l'expérience de travailler avec son père ?
Personnellement, le fait que ça a été mon père n'a rien changé. Par contre, d'abord, dans un dossier comme ça, on n'est jamais trop de deux. Et je vous dirais d'expérience que dans un procès d'assises, on n'est jamais trop de deux. À quelques rares exceptions près, sur les 93 procès d'assises dans lesquels je suis intervenu, je me suis toujours fait accompagner. Parce que d'abord, il y a une tension, il y a une attention de plusieurs heures par jour pendant plusieurs jours. À moins d'être un surhomme, on ne sait pas être au top de la concentration 5 jours d'affilée, sans une seule seconde de distraction, tous les jours, de 9h à 21h. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire, et je ne sais pas qui peut le faire. Donc, on est toujours accompagné. Et là, en plus, on est évidemment très rassuré d'avoir à ses côtés un avocat qui, lui, devait à l'époque avoir une 30aine de cours d'assises à son actif. Ouais. Et puis, ça permet aussi de se partager le boulot, si vous voulez. Évidemment, dans le cadre d'un dossier comme celui d'Arnaud de Gezel, nous n'avions pas grand-chose à dire. Il n'y avait aucune contestation sur la culpabilité. Non. Et comme il y avait peu de remords en ce qui concerne la peine, il n'y avait pas grand-chose à dire non plus, malheureusement. Non. Mais on peut quand même avoir des approches différentes des choses, notamment parce qu'il y a, par définition, il y a une différence de génération.
Et quel est le rôle qui était le vôtre à ce moment-là ? Vous étiez investi d'un rôle particulier ?
Ben, du rôle qui est celui de l'avocat dans tout procès, et a fortiori dans tout procès pénal. C'est-à-dire, le premier rôle de l'avocat dans un dossier pénal, est de vérifier que la procédure se déroule conformément aux règles, que les droits de l'homme en général et que les droits de la défense en particulier sont respectés. Ça, c'est de la procédure, mais il faut être là pour le faire, parce que nous sommes dans un état de droit et dans un pays démocratique, heureusement. Donc il y a des règles de procédure, elles sont valables pour tout le monde. Ensuite, le rôle de l'avocat est d'attirer l'attention, en l'espèce dans un procès d'assises des jurés, sur les éléments qui peuvent être favorables à l'accusé. J'ai horreur, une sainte horreur, des gens qui viennent dire « Oui, les avocats, ils viennent dire, les gens, ils savent que leur client est coupable et ils viennent dire que leur client est innocent. » Ce n'est pas vrai. Alors, il y a peut-être des confrères qui le font, mais permettez-moi de vous dire que leur réputation est très rapidement faite. Auprès des magistrats, auprès des enquêteurs, auprès des journalistes spécialisés en matière judiciaire, on sait très bien que Maître Machin, il va venir vous raconter systématiquement n'importe quoi, et généralement, ces gens-là ne font pas de grande carrière. Il faut pouvoir extraire d'un dossier, autant que faire se peut, les éléments qui sont favorables à l'accusé, sans nier les évidences, parce que nier une évidence, ça énerve tout le monde, à commencer par les jurés. Et un juré énervé est un juré qui tape fort.
Ouais. On continue sur la paternité. Arnaud de Gezel, il a aussi un papa. Est-ce que vous avez...
Et une maman.
Et une maman, bien sûr. Est-ce qu'il y avait un rapport aussi particulier que vous aviez avec les parents ? Il est mineur au moment des faits, donc est-ce que les parents ont une place particulière ?
Oui, je dois la vérité de dire qu'à l'époque, c'est plutôt mon père qui a géré le côté relation
D'accord.
avec les parents.
Oui, oui.
Encore une fois, génération.
Bien sûr.
Il gérait plus avec les parents, moi je gérais plus avec Arnaud de Gezel. Mais moi, je me souviens, notamment pendant le procès, que ces gens étaient... totalement effondré. Ça, c'est pas un scoop. Dans tout procès d'assises, généralement, les parents de l'accusé sont effondrés par ce que leur progéniture a pu commettre. Mais ici, d'une part, la médiatisation des faits, et d'autre part, l'horreur absolue des faits, l'incompréhension à l'égard de l'horreur absolue des faits, c'était difficile à supporter pour tout le monde, mais a fortiori pour le papa et pour la maman. Il y a toujours, qu'on le veuille ou non, une forme de sentiment de culpabilité en se disant « Mais avons-nous engendré un monstre ?» Une célèbre phrase, Hitler aussi avait une mère.
Oui.
Voilà, avons-nous engendré un monstre ? Alors, ça n'a pas de sens, ces gens n'y sont pour rien, d'autant plus que l'enquête a révélé que strictement rien ne pouvait être reproché à ce papa et à cette maman. On était dans un milieu de toute petite bourgeoisie, mais de gens qui sont travailleurs, on avait une chouette maison, on partait en vacances, c'est d'ailleurs en vacances qu'il avait subtilisé l'arme dans un hôtel. Arnaud était quelqu'un d'entouré, de choyé, vous savez, Le coup classique de l'enfance malheureuse, même ça, on n'a pas pu le plaider, parce que monsieur et madame de Gezel, en tant que parents, je le dis, je le crie haut et fort, n'avaient strictement rien à se reprocher. Rien.
Est-ce que vous avez vu en cours de procès, quand même, la lumière un peu chez ce Arnaud de Gezel, ou bien c'est resté une sorte de porte fermée tout le temps?
Je dois vous dire que je n'ai jamais vu luire la lumière dans les ténèbres d'Arnaud de Gezel.
Ah non. Donc pas d'émotion?
Jamais. Nonobstant les conseils que mon père et moi avions pu lui donner, au contraire, il arborait en permanence ce petit sourire qui était considéré par certains comme provocateur et par tout le monde comme insupportable pendant toute la durée des débats. Et les avocats de la défense, nous n'avions vraiment pas grand-chose à dire, compte tenu non seulement de l'horreur des faits, mais en outre de la vie de l'accusé, à laquelle j'ai déjà fait allusion, et de son comportement à l'audience. Donc c'est pas, certainement pas au top des procès dans lesquels j'ai vécu les plus grands moments d'émotion.
C'est ça.
Parce qu'on était beaucoup plus figé par l'horreur que par l'émotion.
Bien sûr.
Ouais. Et aussi par une espèce d'horreur rétrospective.
Ouais.
Parce que, avec tout le respect, que les choses soient bien claires, que j'ai pour la famille de la seule victime décédée, monsieur Maton, mais finalement, pendant tout ce procès, on s'est dit, et il n'y a eu qu'un mort.
Oui, tout à fait.
Notamment, ça je m'en souviens, lorsque l'expert en balistique est venu expliquer que l'arme utilisée était une arme ancienne, rouillée, abîmée, etc. En plus, Arnaud de Gezel s'amusait à faire lui-même ses munitions, donc c'était du bricolage. Et Dieu sait qu'il regrettait qu'elle n'était pas suffisamment létale. Et ça, je me souviens très bien que l'expert en balistique a dit à un moment donné, s'il avait eu une arme normalement efficace, on ramassait 7 morts. Voilà. Ça, je me souviens de l'expression, on ramassait 7 morts.
Est-ce qu'on peut dire, avec la longue carrière maintenant qui est la vôtre, et la brillante carrière qui est la vôtre, que c'est une affaire qui vous a particulièrement marqué?
Alors, l'affaire en elle-même, non, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, ouais. Parce que comme avocat, c'est un dossier où il n'y a rien à dire.
Ouais.
Par contre, la personnalité d'Arnaud de Gezel, celle-là, elle m'a marqué. Et je le mettrais très clairement dans le top 5, voire dans le top 3 des individus les plus inquiétants, on va dire ça comme ça, des individus les plus inquiétants qu'il m'ait été donné de rencontrer personnellement.
Ouais. Et donc justement, à propos, quelques années plus tard, vous devenez l'avocat de Sabine Dardenne. Donc Sabine Dardenne qui est une des victimes, heureusement survivante, de Marc Dutroux. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un que tout le monde va qualifier de monstre, qui est Marc Dutroux. Alors vous n'êtes pas côté défense, hein,
ah non,
vous êtes une partie civile.
Côté de la victime survivante. Exactement. Qui a subi ses sévices pendant 80 jours.
Absolument. Et là, vous voyez Marc Dutroux face à vous. Hein, vous le voyez au procès. Est-ce qu'il y a une sorte de réminiscence? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette monstruosité que vous reconnaissez?
Un peu. Un peu. Les psychiatres qui ont à l'époque examiné Marc Dutroux, on a un premier rapport psychiatrique qui, si ma mémoire est exacte, doit dater de 1998. Et puis les psychiatres, lorsqu'ils sont venus témoigner au procès en 2004, ont expliqué ce que c'était un pervers. On a, je vais revenir à de Gezel, vous inquiétez pas, on a, dans le sens commun du terme, un pervers, ça a une connotation sexuelle. En matière de psychiatrie, pas du tout. Un pervers, c'est quelqu'un qui aime faire mal. Ou qui aime faire le mal. Par quelque moyen que ce soit. Vous avez une vieille grand-mère qui est très attachée à sa vieille potiche qui est là. Eh bien, le pervers va casser la potiche devant la vieille grand-mère. Mmh. Parce que ça fait mal.
Mmh.
Et ils avaient considéré que Marc Dutroux était au taquet, dans la ligne rouge, de tous les signes psychiatriques de cette perversité absolue. Et c'est ce qui m'amène à penser que si Arnaud de Gezel avait pu être examiné par les psychiatres 10 ans après, on en serait peut-être arrivé à un diagnostic semblable. Parce que je crois qu'il est important de rappeler que lors du procès d'Arnaud de Gezel, Tout le monde avait à parler du tueur fou de Moucron. Le tueur fou de Moucron. C'était l'expression, donc le peuple avait déjà décidé qu'il était fou. Et puis les psychiatres viennent dire, mais écoutez, pour nous, il n'est pas fou. Et donc il a quand même fallu que les psychiatres, et c'était un collège de psychiatres, ils étaient trois, viennent s'en expliquer au procès. Et ça, je n'oublierai jamais ce témoignage. Vous parliez de moment fort du procès, si, il y a ce témoignage-là. Parce que je l'ai d'ailleurs rappelé chaque année quand je donne des cours de droit pénal aux jeunes hommes. Il ne faut pas demander aux experts l'impossible. Les experts ne sont pas des magiciens. Ils ont les limites de leur science. Et là, ces trois experts, dont, si ma mémoire est exacte, un ou deux professeurs d'université, sont venus dire, attendez, nous sommes avant tout des médecins. Un médecin, il doit pouvoir dire de quoi vous êtes malade. Et quand on dit de quoi vous êtes malade, si tout va bien, il peut vous dire comment on peut vous soigner. C'est encore autre chose. Bien. Et donc, là, les psychiatres étaient venus dire, voilà, en l'état actuel de la médecine psychiatrique, nous ne pouvons pas vous dire qu'Arnaud de Goezel est atteint de telle ou telle maladie, pathologie psychiatrique connue. Et par conséquent, comme on ne sait pas vous dire quelle maladie il a, on sait encore moins vous dire comment on va la soigner, puisqu'on ne sait pas quelle est la maladie. Et comme on ne sait pas quelle est la maladie, on doit bien vous dire que selon nous, il n'a pas de maladie connue. Il n'en demeure pas moins extrêmement dangereux. Ouais. Et je me suis toujours posé la question de savoir si, quand on a commencé à développer, notamment aux États-Unis, au Canada, des études beaucoup plus approfondies sur la perversité au sens psychiatrique du terme, si on ne serait peut-être pas, je ne suis pas psychiatre, mais si on ne serait peut-être pas arrivé à un diagnostic du même style pour Arnaud de Goezel que pour Marc Dutroux.
Mais ce qui n'aurait rien changé par rapport à la peine, probablement. Ça n'est pas une circonstance atténuante. Hein.
Non, parce que la perversité ne rend pas incapable du contrôle de ses actions. Donc, un pervers reste pénalement responsable. Pour reprendre l'exemple de Marc Dutroux, chacun sait que Marc Dutroux n'a pas été enfermé dans un asile psychiatrique. Non. Il a été jugé, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et fort heureusement, il purge toujours sa peine. Ouais.
Est-ce que vous croyez que Arnaud de Goezel et ou Marc Dutroux, est-ce que vous oseriez qualifier ces individus de monstres? Est-ce que vous croyez qu'il y a des monstres parmi nous?
Je n'aime pas cette expression. Un monstre, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, dans l'horreur, d'accord? Et donc, il y a un risque. Où plaçons-nous le curseur de la normalité? C'est très dangereux. Il n'y a pas un siècle d'ici, les homosexuels étaient traités de monstres. Alors, je me méfie de ce genre d'expression. Je peux dire, par contre, en tant qu'avocat, qu'il y a des gens qui sont d'une extrême dangerosité sociale et que la protection des citoyens et de la société exige qu'ils soient mis à l'abri de cette société. Et c'est incontestablement le cas pour Arnaud de Goezel, c'est incontestablement le cas pour Dutroux. Je constate d'ailleurs que l'un et l'autre ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ouais.
Très bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu
avec
à mes questions, c'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci.
Quand Arnaud de Goezel est condamné aux travaux forcés, le journal Le Courrier de l'Escaut va titrer « Arnaud de Goezel, le tireur fou, n'a eu qu'un sourire pour la perpétuité ». Et ça, c'est une image qui a été filmée. Donc, il regarde ses parents et il fait un haussement d'épaule avec une sorte de demi-sourire et puis il part en prison.
Et ses parents, tu les connaissais aussi? Tu les avais déjà croisés? Tu l'avais déjà croisé, lui, dans les rues?
Arnaud de Goezel, non. C'est un visage, en tout cas le visage ne me disait rien du tout, mais effectivement la maman, alors j'ai un doute, je pense que c'était une libraire et que j'avais été dans sa librairie déjà. Ce qui est intéressant dans l'entretien avec l'avocat Rivière, c'est qu'il réhabilite un peu ses parents qui ont été un peu malmenés pendant le procès. Enfin, ne faut pas oublier que pour eux c'était une immense souffrance et que ce sont quand même des gens qui ont demandé plusieurs fois de l'aide, qui étaient très désemparés avec un fils dont ils voyaient que ça n'irait pas. Et alors, je ne sais pas si tu as lu le livre ou vu le film, Il faut qu'on parle de Kevin.
Oui, c'est un film Bah d'ailleurs, l'ado qui joue, enfin l'acteur ressemble un peu dans les traits, vite fait,
oui,
à Arnaud de Gezé.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ce film est assez glaçant aussi.
C'est très glaçant, une fin atroce, et c'est vraiment, hein, un film et un livre sur le désarroi de parents qui sont en train d'élever un psychopathe, en fait.
Et oui, tu sais pas quoi faire, et forcément tu te dis c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose. Enfin, il y a toujours des histoires dans les familles, mais s'il n'y a pas de gros traumas,
non,
ou de gros scandales.
Non, il n'y a rien, effectivement, dans la vie familiale de De Gezel. Bon, il y a la mort de son grand-père, qui est un traumatisme, mais on a tous perdu notre grand-père, ça, tu vois, ça ne peut pas,
ouais.
ou on va tous le perdre plus ou moins vite, donc ça n'explique pas un passage à l'acte avec autant de cruauté.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de cas où c'est souvent des gens qui viennent de familles compliquées, avec des rapports conflictuels avec la maman, ou très violents, comme dans tous les... Mais là...
Non, là, il n'y a rien. Y a rien qui l'explique. C'est vraiment quelqu'un qui est possédé par le démon, hein, comme le disait ma mère. Quelques jours après le procès, je me promène dans le quartier et je tombe sur la maman. Alors la maman, en plus, hein, pour moi, elle a témoigné au procès, donc je l'ai vue. Je me souviens d'avoir vu pleurer au procès quand elle témoignait. Elle n'arrivait pas à témoigner sans pleurer, elle était complètement désemparée. Et je la croise parce que je suis en train de promener mon chien, et elle est en train de promener son chien. Elle sait pas qui je suis, moi je sais qui elle est, mais évidemment je ne fais pas référence à ce qui s'est passé, donc je fais comme si je la connaissais pas. Et on parle de chien pendant une minute, tu sais, comme deux promeneurs de chiens qui peuvent se croiser. Et puis je lui souhaite une bonne promenade, et puis elle repart. Ça m'avait marqué quand même ce moment. Tout d'un coup, je me dis, en fait elle est revenue quand même dans la vraie vie, et elle parle de son chien, quoi.
Bah oui, après, c'est aussi peut-être que t'étais la seule personne qui lui parlait encore. Enfin, je veux dire, c'est dans les petits, dans les villages ou dans les quartiers, c'est vite.
C'est vrai.
Marqué, enfin.
C'est vrai.
Au fer rouge. Le 8 décembre 2012, le décès par overdose d'Arnaud de Gezel est annoncé dans la presse. L'article publié sur le site du magazine Le Vif explique que le prisonnier de 37 ans était considéré comme un homme solitaire, peu affable, et comme un grand sportif qui prenait soin de lui et ne cherchait pas les ennuis. Cette overdose pourrait être un suicide.
Oui, c'est ça, c'est pas sûr.
Bernard et Magda Maton reposent dans ce cimetière à 100 mètres de la frontière française, aux côtés de leur fils David, et même le plus pervers des tueurs ne l'arrachera pas à leur étreinte.
Voilà, donc petite référence à la plaidoirie, hein, de mon papa. Donc ça clôture bien cette histoire. On va rester dans la tradition du scénario du pire, mais... Pour le casting, en fait, moi, j'avais pensé que à Arnaud de Gezel. J'ai pas voulu trouver des acteurs pour d'autres personnages. Et j'ai pensé à un acteur français, mais juste parce qu'il y avait quelque chose de physiquement ressemblant. C'est Luca Meliava. Pas une superstar, mais voilà, c'était juste pour avoir un casting.
C'est trop bizarre parce que moi, quand je le vois, il me fait vraiment penser à quelqu'un.
Oui, t'arrives pas à mettre un...
Mais vraiment un acteur ou un... C'est vraiment bizarre et j'arrive pas à mettre... Il me fait penser à quelqu'un.
Oui. Il y a un soundtrack qui s'impose. Le soundtrack, c'est Day Is Done de Nick Drake. Alors, c'est une chanson magnifique qui parle du jour qui s'en va, qui parle des regrets, qui parle de toutes les choses qu'on a rêvé de faire et qu'on n'a jamais faites, et qui parle aussi de l'oubli qui nous attend tous. Donc c'est très triste, mais on peut la voir aussi de façon un peu positive, même s'il y a une grande nostalgie, une grande tristesse, c'est aussi peut-être un appel à chérir le moment présent. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne depuis très longtemps. C'est aussi la chanson qui a succédé au discours que j'ai fait le jour des funérailles de mon père, et j'avais pris un angle que j'aurais pas dû prendre, parce que j'ai pas été capable de lire mon discours sans sangloter. J'ai pris un truc beaucoup, enfin voilà, j'étais beaucoup trop dans l'émotion, c'est normal. Et la chanson qui a suivi ce discours, c'était Day Is Done de Nick Drake. C'est vraiment aussi une chanson que j'associe très fort au décès de mon père, donc j'ai décidé de la passer en intégralité. On va pas passer l'extrait, on va passer la chanson en intégralité. Elle ne dure que 2 minutes 25 et c'est un petit chef-d'œuvre. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the
day's done when the night is cold. Some get by, but some get old, just to show life's not made of gold when the night is cold. When the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Et voilà, c'est fini. Donc c'était le dernier épisode du Scénario du Pire.
Eh oui. En tout cas, je voulais te remercier pour cette expérience cocasse, incroyable. Et c'était une super rencontre. Belle aventure.
Ouais, une belle aventure. On a fait 20 heures.
20 heures,
oui. 20 heures, oui. Plus, je ne sais pas ce qu'on aura comme durée aujourd'hui sur le montage final, mais on a enregistré, on a monté 20 heures de podcast, c'est pas mal.
En 2 ans.
Un peu moins.
Un peu moins,
ouais. On a commencé en mars, un an et demi.
Mais tu vois, moi j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans.
Mais oui. Et voilà, et moi donc on a eu des personnages vraiment atypiques, hein, c'était un peu le concept, mais je trouve que tu es un des plus atypiques.
Ah bon? Voilà.
Et un des plus énigmatiques, donc oui. Voilà, il y aura un mystère Julie pour moi tout le temps.
Ah oui. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une psychopathe.
Ah non, certainement pas, non. Alors, on a quelques personnes à remercier. Je voudrais remercier Safia Kessas. Safia Kessas qui nous a donné beaucoup de conseils à l'occasion du dernier épisode. Et on vous recommande, mais vraiment très chaudement, son podcast qui s'appelle Au nom de Safia. C'est une enquête assez obsédante et vraiment aussi très émouvante sur sa tante qui est décédée pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, elle va enquêter pour voir de quoi est morte cette tante qui s'appelle Safia Kessas aussi. Et donc, le podcast s'appelle Au nom de Safia. C'est à écouter absolument, c'est vraiment un très très beau récit. On va remercier le studio Flamboyance.
Oui.
Michel et Louis. Bon, on a eu la chance de collaborer 2 fois avec eux. Et c'était vraiment toujours super fun de collaborer avec eux. On vous encourage aussi à écouter leurs podcasts, les podcasts du studio Flamboyance, dont Popcorn et Gros Doux, c'est celui dans lequel nous on est apparu. On leur souhaite aussi beaucoup de succès pour tous leurs projets. Et puis on voudrait aussi remercier Deria, notre ami Deria. Oui. Psychopost DK, qui a lancé une chaîne YouTube, Psychopost DK, avec un projet qui s'appelle Angle Mort, et c'est vraiment très, 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 très intéressant.
Même
très
sur, oui, même sur Instagram, oui. Elle est hyper active, très active, c'est très, très chouette, les petites capsules qu'elle fait.
On va remercier Pierre Chevalier aussi, qui a été notre sparring partner et notre musicien attitré. Hein, c'est à lui qu'on doit notamment le générique. Alors, c'est un générique assez court, mais en fait, il y a un morceau de... 11 minutes
oui,
derrière ça, en
tout cas. Un peu fou qui suit, ouais.
Et qui est assez formidable, qui est sur la playlist du Scénario du Pire. On va remercier le Podlab. Le Podlab, c'est là où on est maintenant. C'est le studio dans lequel on enregistre. Ils nous ont accueillis dans un studio qui est vraiment très, très agréable. On peut même mettre un petit public,
oui,
si on veut. Il y a des fauteuils de cinéma.
Oui, c'est vrai que c'est très chaleureux. L'endroit est vraiment cool.
Si vous êtes belge, vous voulez enregistrer un podcast à Bruxelles, on vous recommande le Podlab. Et puis, bien sûr, merci à tous les auditeurs, à ceux qui nous ont écrit, à ceux qui nous ont laissé des ratings, c'est très précieux, à ceux qui ont laissé des commentaires, des reviews durant ces 20 derniers mois. Et vraiment, chaque message, tous les commentaires qu'on a reçus, ça nous a touchés, ça nous a même souvent surpris, d'avoir du feedback.
Et ça fait du bien, c'est hyper agréable.
Ah, c'est super agréable, ouais. Vraiment, parce que c'est plein de boulot de faire un podcast, mais quand tu reçois un message positif, finalement... Le boulot, ça pèse beaucoup moins lourd tout d'un coup.
Bah, des fois, on réalise pas. Il y a un côté zoom comme ça où ouais. tu reçois un message de gens que tu connais. Enfin, tu ne visualises pas du tout ce qui se passe.
Voilà, donc merci. Et puis, d'habitude, on dit merci et à bientôt. Là, on va dire merci et peut-être à bientôt.
À une prochaine. Merci.